Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Hevels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui notre pasteur Dinara Jones. Bonjour Dinara.
Bonjour Marie-Christine, bonjour Jean-Paul et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
Et bonjour Dinara.
Donc aujourd'hui, tu voulais nous parler de la famille.
Oui, de la parentalité. Qu'est-ce qu'être père ? Et qu'est-ce qu'être mère ? Les couples de même sexe peuvent-ils adopter des enfants ? Ces questions ont animé la vie politique, la vie juridique et éthique tout au long de l'année. Je pense que ça va continuer encore. Alors, comme toutes les bonnes questions ou les questions complexes, il n'y a pas de réponse, ou en tout cas pas de réponse unique. Mais peut-être qu'ici ou là, on peut, par petites touches, explorer quelques pistes. Qu'est-ce qu'être père ? Qu'est-ce qu'être mère ? Est-ce qu'on le devient en mettant au monde des enfants ? La technique, les tests ADN qui sont possibles tendent à réduire la parentalité au fait d'être géniteur. Mais être géniteur ne signifie pas être parent. Dans des cas très malheureux, même être géniteur se révèle être un refus d'être parent. Être mère, être père, on le devient. C'est aussi un acte d'adoption. C'est un acte de langage, un acte opéré par le langage. Et dans le christianisme, ceci a plus d'importance encore, car nous sommes une religion, la seule à ma connaissance, nous sommes une religion qui appelons Dieu Père. Et pas mon Père, notre Père. On se découvre par là fille et fils, on découvre par là des frères et des sœurs, Père, Mère, on le devient. Je vous invite à la prière avant de lire la Bible. Dieu, notre Père, les mots vieillissent et se dévaluent. Et pourtant, c'est en un langage humain que ton Fils est venu nous apporter les paroles de la vie éternelle. Accorde-nous d'être attentifs aux mots que nous entendons et à ceux que nous prononçons, pour que, à travers eux, apparaisse Jésus-Christ, parole vivante, pour les siècles des siècles. Père, nous te rendons grâce de ne pas nous laisser dans la solitude de nos déserts. Une voix s'élève pour nous rappeler ton plan de salut pour le monde, pour donner espoir et consolation, pour donner, redonner du souffle. Amen.
Amen.
Et donc je vous invite à écouter dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 16 à 26, un texte qu'on appelle classiquement la sagesse de Salomon.
Alors deux prostituées vinrent se présenter devant le roi. L'une dit « Je t'en supplie, mon seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison, et j'ai accouché alors qu'elle s'y trouvait. Or, trois jours après mon accouchement, cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble, sans personne d'autre dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme mourut une nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui était à côté de moi, ta servante dormait, et le coucha contre elle. Et son fils, le mort, elle le coucha contre moi. Je me levai le matin pour allaiter mon fils, mais il était mort. Le jour venu, je le regardai attentivement, mais ce n'était pas mon fils, celui dont j'avais accouché. L'autre femme dit, « Non, mon fils, c'est le vivant, et ton fils, c'est le mort. » Mais la première continua à dire, « Non, ton fils, c'est le mort, et mon fils, c'est le vivant. »
Ainsi parlait-elle devant le roi. Le roi dit, « Celle-ci dit, « Mon fils, c'est le vivant, et ton fils, c'est le mort. » Et celle-là dit, « Non, ton fils, c'est le mort, et mon fils, c'est le vivant. » Le roi dit, « Apportez-moi une épée. » Et l'on apporta l'épée devant le roi. Et le roi dit, « Coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en une moitié à l'une et une moitié à l'autre. » La femme dont le fils était le vivant dit au roi, car ses entrailles étaient émues au sujet de son fils, « Pardon, mon seigneur, donnez-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas. » Tandis que l'autre disait, « Il ne sera ni à moi, ni à toi, coupé. »
Qu'est-ce qu'être père ? Et qu'est-ce qu'être mère ? Et comment vit-on une adoption ? Est-ce que les couples de même sexe peuvent adopter ? Ces questions ont récemment traversé la vie politique de notre pays. Et peut-être que ce texte, dans le livre des rois, peut pointer quelques pistes de réflexion. Je vais commencer par la question suivante. Qui est donc la vraie mère dans le récit que nous avons entendu ? Et voici un premier élément de réflexion, c'est qu'en apparence, rien, mais absolument rien, ne distingue ces deux femmes l'une de l'autre. Elles sont toutes les deux prostituées. Des prostituées qui ont toutes les deux des bébés. Des bébés de même sexe, des garçons. Elles accouchent l'une à côté de l'autre, et ce, à peu près au même moment, à 3 jours de différence, nous dit-on. Et enfin, elles vivent toutes les deux dans la même maison. Donc, en apparence, rien ne distingue ces deux femmes. Elles vivent dans la même maison, avec une précision, avec le verset 18, une maison où il n'y a pas d'homme. Alors, dans la traduction commune, vous aurez toujours « il n'y a pas d'homme » dans la maison. Mais littéralement, on peut aussi traduire « il n'y a pas d'étranger dans la maison ». Il n'y a pas d'étranger avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux, dit la première femme, comme pour pointer une situation d'enfermement, comme pour pointer une relation sans aucune altérité. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'étranger, jusqu'à ce que Salomon, l'homme, arrive. Dans leur discours non plus, rien ne permet de les distinguer, en tout cas pas au début du récit. Elles tiennent toutes les deux, tour à tour, le même langage. Verset 21 et verset 22, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Donc il y a comme une espèce de symétrie parfaite entre ces deux femmes. Et cette symétrie a fait qu'on a parfois interprété ce texte en disant que ces deux femmes n'en font qu'une seule et qu'il s'agirait de deux pentes du désir en chacun de nous. Deux tendances qui cohabitent en nous. Une sorte de conflit intérieur qui peut déchirer chacun de nous et doit précisément nous pousser à entendre le bon jugement et ainsi à faire les bons choix. Et d'ailleurs, en parlant de symétrie, Salomon semble vouloir mener cette symétrie jusqu'au bout en coupant l'enfant en deux par l'épée pour que chacune puisse avoir une moitié. Et voilà bien l'important. C'est cet acte de coupure qui va révéler la différence entre les deux femmes. Salomon dit de donner le vivant à celle qui accepte de renoncer. Elle accepte de renoncer car l'enfant est bien de elle, mais non pas à elle. Et je crois qu'il y a là une distinction fondamentale. Il y a une pente du désir qui veut garder, qui veut posséder, et une autre qui est davantage capable de perdre et de renoncer. Tout parent peut être confronté à ces deux tendances. D'un côté, vouloir que l'enfant soit conforme à notre désir, et de l'autre, la capacité à renoncer pour que le désir de l'enfant naisse, grandisse et s'exprime. Or, c'est un vrai problème ici, ces deux tendances cohabitent, mais l'une des tendances mène à la vie et l'autre mène à la mort. Parce que qu'est-ce qui différencie les deux femmes? Là, on a dit tout ce qui les rassemblait, qui fait qu'elles tiennent le même discours, etc. Mais qu'est-ce qui les différencie? Certainement pas que l'une aime et que l'autre n'aime pas. Mais plutôt que pour l'une, aimer conduit à perdre pour que l'enfant vive. Alors que pour l'autre, aimer conduit à étouffer. Le texte dit assez justement, elle s'est couchée sur son bébé la nuit, ce qui symboliquement est aussi parlant. C'est sans doute un excès d'amour que de se coucher dessus. Et quand le jugement est prononcé, l'amour de cette femme est tellement possessif qu'elle préfère voir l'objet de son amour disparaître plutôt que de le savoir hors de son emprise. Donc voilà ce qui différencie ces deux femmes. Et ceci est d'autant plus important que bien souvent, on entend dire « l'essentiel c'est d'aimer ». Ça, on l'entend de plus en plus souvent, « l'essentiel c'est d'aimer ». Non, je crois que l'essentiel ce n'est pas d'aimer. Parce que nous venons de le voir, aimer peut prendre deux formes strictement opposées. L'important ce n'est pas d'aimer, l'important c'est de savoir de quel amour on aime. Et cet amour qui tue, comme dans notre texte, cet amour qui tue n'est pas réservé aux psychopathes, sauf à être naïf ou de mauvaise foi. On est obligé d'admettre qu'il est aussi en nous. Nous avons tous une façon d'aimer qui est possessive, vouloir que celui ou celle qu'on aime soit exactement comme on veut, par exemple tel que l'on veut, qu'il soit là où on veut. Et bien entendu, cet amour possessif tue l'autre, puisqu'il le transforme en objet, objet d'amour certes, mais objet privé de singularité propre. Et bien évidemment, l'enfant qui est par définition totalement à construire, peut être l'objet de cette tentation de vouloir qu'il soit ce que l'on veut qu'il soit. Du coup, chers amis, ce qui est exceptionnel dans ce jugement de Salomon, ce n'est pas tellement d'avoir mis à jour la vraie mère dans la personne de la mère biologique, sans quoi, ici je vais faire un peu d'anachronisme, sans quoi donc un peu de test ADN suffirait à résoudre le problème, ce n'est pas ça qui est exceptionnel. Parce qu'un test ADN, si ça met à jour des géniteurs, ça ne peut pas mettre à jour un vrai père ou une vraie mère. Ce qui fait un vrai père ou une vraie mère, ce ne sont pas des cellules, c'est aussi une parole, c'est aussi une reconnaissance, c'est aussi une éducation. Donc ce qui est exceptionnel dans ce jugement, c'est que la mère se révèle en acceptant de perdre. Elle est dans le renoncement. Elle ne peut pas tout avoir. L'autre femme, elle ne manquait pas d'amour. Encore une fois, c'est certainement par amour que d'avoir été trop près de son enfant jusqu'à l'écraser. Mais voilà donc la chose importante, je crois, dans ce texte, c'est le renoncement. Le renoncement, car la vraie mère est celle qui accepte de ne pas tout avoir. L'enfant est de elle, mais non pas à elle. Elle accepte de le perdre pour qu'il reste en vie. Et ce texte nous dit quelque part qu'être mère, c'est une vocation plus haute qu'être génitrice. Être génitrice peut même parfois être un refus d'être mère. Et nous avons donc tort de restreindre la maternité, la paternité, à un niveau biologique. Et bien sûr, ce niveau biologique est conforté de nos jours par les progrès de la science. Je termine en disant par quelque chose d'important dans la Bible qui est la filiation. Et nous le savons, la filiation est tout autant, sinon davantage, opérée par une parole symbolique sur l'enfant. Le don d'un nom, par exemple, et d'une identité. Le symbolique dans la Bible prime toujours sur le biologique. Et cela se vit, cela se fait devant Dieu. Pas n'importe quel Dieu, mais celui que nous appelons Père. Alors, frères et sœurs, ce Père qui nous adopte, qui fait de nous des fils et des filles, qui nous appelle à aimer, eh bien, il est là, il nous appelle à aimer d'un amour qui sait donner, mais d'un amour qui sait aussi renoncer. Un amour qui n'est pas notre penchant naturel, donc, et qui justifierait un accès à tout ce que l'on désire, mais au contraire, un amour, quelque chose comme l'Évangile appelle le don de soi. Soyons donc dans cet amour fraternel que le Christ appelle le don de soi. Amen.
Thank you.
Je vous invite à la prière. Notre Père, qui n'est pas aux cieux, mais au creux de la terre, dans la boue de nos jours. Toi, le très concret, qui ne néglige pas nos affaires humaines, mais les éclaire de ta parole, donne-nous de prendre part à l'effort quotidien qui entretient le monde et la place dans l'homme joui. Ne nous soumets pas à la tentation d'être de purs esprits, mais donne-nous le courage de l'action et le discernement dans nos contradictions. Quels que soient nos engagements et nos responsabilités, rappelle-nous que c'est à toi qu'appartiennent le règne véritable, la puissance et la gloire. Amen.
Merci Dina pour ce temps de méditation et de prière.
Merci.
Je vous dis au revoir et chers auditeurs, au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
À bientôt.